Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, il est 11h, le Festival d'Avignon se réveille, nous sommes bien installés dans la cour de l'université. Pendant une heure, c'est des idées sous les platanes. Troisième et dernière semaine de nos retrouvailles quotidiennes sous les platanes de la Faculté des sciences d'Avignon pour cette heure que nous passons à converser à l'ombre. Alors ici, nous avons souvent parlé de théâtre, on en reparlera demain avec le directeur du festival, Olivier Py. Mais nous avons surtout beaucoup parlé de textes, le texte qu'on représente, qu'on dit, qu'on lit, qu'on écrit, le texte qu'on traduit, le texte qu'on admire, qui nous élève ou le texte qui nous agace. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une autre forme de langage, mais qu'à ces textes aussi, nous allons parler de mathématiques avec Stella Baruch, qui est mathématicienne. Stella Baruch.
Bonjour, Xavier Delaporte.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous depuis Paris pour discuter ce matin. Alors je le disais, je ne sais pas si c'est tellement la peine de vous présenter, mais je vais le faire quand même. Vous êtes enseignante en mathématiques, vous êtes aussi chercheuse, qui vous intéresse principalement, au moins depuis le milieu des années 70, c'est l'enseignement des mathématiques. Alors après ces trois semaines, nous avons parlé du texte, toutes ses formes, mais surtout, sous ses formes littéraires, il fallait que nous parlions de science et de celle dont le rapport au texte est peut-être le plus contre-intuitif. Je parle des mathématiques. Alors, Clarisse Ehrenschmidt, qui était là il y a 10 jours, qui est linguiste, historienne de l'écriture, est venue ici même nous parler de la naissance de l'écriture et elle nous a rappelé que les premiers signes inscrits par les humains sont vraisemblablement des quantités, donc des sortes de nombres. Les premiers textes, ce sont donc des nombres. Alors, à notre étonnement, elle avait opposé avec sa voix qui unique un tonitruant. Mais les mathématiques, c'est du texte. Et oui, c'est du texte, les mathématiques. Bon, comme si c'était une évidence. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, Stella Baruch, que les mathématiques, c'est du texte?
Oui, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire à ce propos. D'une part, en effet, une historienne des mathématiques dit... Comme on ne peut pas tenir de registre de compte oralement, il a fallu l'écriture. Comme si l'écriture était en effet, avait cette origine extrêmement prosaïque qui serait de tenir des livres de compte. Mais il n'y a pas que ça. Ce que permet l'écriture est tout à fait extraordinaire. Et on a les tablettes babyloniennes sur lesquelles on a ce qu'on appelle les triplets pythagoriciens. Qui vont connaître une très très longue carrière, puisque ça nous amène jusqu'en 94 avec... Je vais essayer d'expliquer ça. Les triplets pythagoriciens, ce sont des nombres entiers tels qu'ils vérifient le théorème de Pythagore. Par exemple, le fameux 3, 4, 5. Le carré de 3, 9. Le carré de 4, 16. Le carré de 5, 25. 9 plus 16 égale 25.
D'accord.
Donc, avec 3, 4, 5, on fait un triangle rectangle si on prend ça comme mesure. Très bien. Eh bien, on a déjà ça dans des tablettes babyloniennes d'il y a de 2000 ans avant Jésus-Christ, dont on peut se demander à quoi ça sert, à quoi ça leur sert et à quoi vont servir les innombrables travaux qui vont suivre. Alors, là, il est bien évident que l'écriture s'impose et qu'on ne peut rien sans elle. Mais, il y a des numérations orales. Et il y a des numérations orales qui sont extrêmement, sophistiquées.
Qu'est-ce que vous appelez les numérations
C'est-à-dire
orales
sans écriture.
D'accord.
Donc, l'écriture, on peut se passer de l'écriture, pas indéfiniment pour de très grands nombres, mais on peut quand même aller assez loin. Il y a en particulier une peuplade de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Qui fait des maths sans écriture.
Qui compte par quinzaine.
D'accord.
C'est-à-dire qu'au lieu de la dizaine, qui est la nôtre, ce sont des quinzaines. et des quinzaines de quinzaines. Ils ont donc un système à base 15, ce qui est quand même extrêmement sophistiqué.
Et tout en tout.
Et tout oral.
Tout oral, d'accord. Jusqu'à des grands nombres.
Jusqu'au moins 225, puisqu'on peut dire une quinzaine de quinzaines.
Mmh. Et alors, et dire que les mathématiques sont un langage, qui n'est pas exactement la même chose que dire que c'est un texte. C'est une idée que vous défendez, vous, que les mathématiques sont un langage, parce que vous avez même écrit un dictionnaire des mathématiques qui se voulait donc l'explication de mots. Alors, de mots, est-ce qu'on peut dire que ce sont des mots, d'ailleurs, de concepts mathématiques, je ne sais pas. Comme si c'était une langue.
C'est une langue. C'est une langue, mais une langue extrêmement complexe, une langue qui ne se prive pas de faire des emprunts dans la langue maternelle, qui s'inscrit dans la langue maternelle, justement. Bon, il y a eu à un moment donné la nécessité... Bon, essayons de dire quand même quelque chose à propos de l'idée de texte.
Ouais.
Il y a un commentateur de Euclide, qui est un de ses très grands admirateurs, qui s'appelle Proclus, au 5e siècle, donc au moins 7 siècles après Euclide, qui dit que les éléments sont l'essence du texte, c'est-à-dire la trame, le tissage, l'idée de tisser. Enseignement des éléments, c'est quoi ?
Oui, c'est quoi les éléments ? Ouais.
Les éléments d'Euclide, qui ont été le premier livre mathématique construit comme une théorie, c'est-à-dire une base sur laquelle on construit autre chose et encore autre chose, etc. Par exemple, ce fameux théorème de Pythagore, qu'on attribue à Pythagore, c'est Euclide qui l'a démontré le premier. Et l'idée le commentaire de Proclus, c'est de dire ce sont des éléments tels que ils tissent ensemble un texte qui ne tient que dans leur succession.
D'accord.
Moi, qui ai beaucoup tricoté dans ma vie, ça m'a vraiment fait penser à la maille qui s'inscrit dans la maille d'avant, laquelle s'inscrit dans la maille d'avant, et fait littéralement un tissu.
C'est assez beau parce que c'est la première fois, c'est la première fois que nous, là, on parle d'un texte qui ne contient pas que des mots, ou qui peut même ne pas en contenir. C'est qu'il y a des textes avec autre chose.
Il y a des textes avec autre chose, mais les premiers textes ne contenaient que des mots. Que des mots. Il y a énormément de textes où vous n'avez même pas de chiffres, où tout se dit en mots. Hein. Il a fallu, ça c'est une très belle histoire, que celle de la formalisation, de l'introduction des lettres, etc. Nous en dirons peut-être un mot. Mais le texte d'Euclide, son intérêt, c'est qu'une chose ne peut paraître que si elle a été préparée par celle d'avant. Et celle d'avant, encore par celle d'avant. Et celle d'avant, etc. Voilà.
D'accord, ok.
Donc, cette première démonstration du théorème de Pythagore, bon, il est tellement connu qu'il il fait le... Comment dirais-je ? Je vous ai apporté ce que j'appelle une partie de mon herbier.
Ouais. Donc, c'est un herbier sans herbe, c'est un herbier de texte. Ouais.
Voici cet extraordinaire théorème qui a traversé les âges.
Pourquoi vous le trouvez extraordinaire, le théorème de Pythagore ?
Parce qu'il est archi-connu. On l'appelle le pont aux ânes. Il est au programme du collège sans qu'on puisse dire que ce sont les élèves qui sont des ânes. Mais ça s'appelle le pont des ânes parce qu'il est tellement commun, tellement connu de tout le monde. Même si on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, on sait qu'il y a le théorème de Pythagore. Et regardez ça, si c'est amusant.
Pour s'amuser dans la tranchée ? Ah, c'est-à-dire, c'est pour s'amuser dans la tranchée militaire ?
La tranchée militaire ?
Ah oui, d'accord.
1916.
Et donc, c'était quoi ? C'était des petites démonstrations autour du théorème de Pythagore, mais qu'on distribuait aux militaires pour qu'ils s'amusent dans les tranchées ?
Exactement. Enfin, qu'on distribuait, je ne sais pas. C'était une... c'était une publication qui était destinée, en effet, à les 10... traire au sens propre du terme, c'est-à-dire à leur faire oublier. On oublie le temps d'une manière étonnante en mathématiques.
L'usage des mathématiques comme distraction dans les tranchées, ça c'est clair.
Ah oui, dans les tranchées ou ailleurs.
Alors juste, revenons à cette idée de langage, tel à Baruch, parce que, d'accord, alors on dit les mathématiques sont un langage. Est-ce que c'est un seul langage, les mathématiques ? Parce que est-ce qu'on peut considérer que différentes... Alors je ne sais pas si on dit des branches d'ailleurs des mathématiques, mais je ne sais pas, la statistique... la géométrie dans l'espace, l'algèbre, l'analyse, etc. Est-ce que ça, c'est un seul langage ?
Non. Il y a des langues, si je puis dire, différentes pour chaque partie des mathématiques, hein. Ne serait-ce que le concept de fonction, on peut le concevoir de plusieurs manières, graphiquement, analytiquement, etc., etc. Mais une idée peut être une idée totalement, comment dirais-je, fondatrice, en se ramifiant de façon différente.
Alors ce serait quoi, Stella Baruch, les idées ou peut-être l'idée que vous considérez comme fondamentale, comme fondant le langage mathématique? C'est quoi, c'est le nombre, c'est... Qu'est-ce que c'est?
Ben c'est énormément de choses. Justement, il y a une caractéristique du texte mathématique qui est de traverser les âges, de changer éventuellement de forme avec le temps, avec les nouveautés qui interviennent, et puis qui finit par arriver dans, et qui doit être admis dans un corpus, adopté par la communauté mathématique, et enfin se mettre à faire partie des programmes d'école, et devenir la propriété des enseignants, des élèves. Alors, cette traversée du temps, j'en ai un exemple qui, moi, m'a beaucoup amusée.
Dans votre herbier, toujours?
Dans mon herbier, toujours, et toujours à propos de Pythagore, pour rester un petit peu unitaire. Mmh. Et je soumets ça à votre jugement. Voilà.
C'est une copie
d'élève avec un énoncé qui vient de quelque part, mais bon. Juliette était prisonnière dans une maison. Roméo la cherche. Roméo arrive devant la maison avec une échelle, la pose à 3,50 m du pied du mur. Il l'appuie sur le rebord de la fenêtre qui se trouve à 4 mètres du sol. Faire un schéma de la situation, combien mesure l'échelle?
Qu'est-ce que vous en tirez?
L'échelle casse. Ouais. Roméo va en chercher une autre de 6 mètres de long. À quelle distance du pied doit-il la poser? Et enfin... Hélas, la chambre est vide, Juliette est en fait dans une autre cabane. Roméo pose sa nouvelle échelle à 3 mètres du pied du mur, la fenêtre est à 4 mètres du sol, et il dit, mais la maison risque de s'écrouler. Faire un schéma, expliquer la peur de Roméo. Eh bien, il s'agit...
Mais c'est très beau, ça. J'aurais adoré avoir des intitulés comme ceci.
Alors, eh bien, ça, j'en ai une belle collection de ce genre de choses, c'est-à-dire la manière dont les pédagogues s'approprient. Voilà ce qui était sur les tablettes babyloniennes, à savoir un roseau posé contre un mur et qu'on décale de combien a-t-il bougé. C'est magnifique, je trouve, comme traversée du temps et comme attribution différente.
Ça devient une histoire. Ouais. Votre contact avec les mathématiques, votre premier contact, vos premiers souvenirs, remonte à quand, Stella Baruch?
Personnel.
Est-ce qu'il y a une histoire fondatrice? Est-ce que c'est une transmission familiale? Comment ça s'est fait? Sans doute que c'est reconstruit, d'ailleurs, peu importe. Mais comment vous la racontez, cette histoire?
Curieusement, ce n'est pas reconstruit, parce que j'ai commencé à faire des mathématiques en classe de 4e. J'étais pensionnaire à Beyrouth. J'ai des religieuses, et c'est une religieuse qui nous faisait les cours de mathématiques. Avant ça, je m'étais affreusement ennuyée avec les problèmes de certificat d'études qui étaient auxquels je ne comprenais pas grand-chose. En quatrième, il y avait donc une certaine sœur Tarsicia qui était une pédagogue extraordinaire, et ça, on vous dira toujours que les mathématiques sont dépendantes pour beaucoup des pédagogues, bien évidemment, des passeurs. Et elle était non seulement une très bonne pédagogue, mais en plus, elle nous mettait au défi de faire, de trouver, de comprendre, etc. Et cet aspect de défi, il est intrinsèque aux mathématiques.
Donc, ah bon, pourquoi?
Parce que
résoudre un problème, c'est un défi.
N'importe quel problème est un défi. Vous êtes face à vous-même avec ce problème, qu'il s'agit ou non de résoudre. Eh bien, vous oubliez le temps. Si vous vous accrochez et que vous n'y arrivez pas, vous oubliez le temps. Moi, j'en ai laissé brûler des dîners.
Parce que vous étiez accroché à un problème.
Parce que je cherchais quelque chose et que voilà, on ne voit pas le temps passer. C'est extraordinaire, d'ailleurs. Il y a de très beaux exemples historiques de ça, de mathématiciens, qui... François Viette... Hein, on était obligé de l'amener à sa table de salle à manger, mmh, parce que sinon, il se serait laissé mourir de faim.
Ah ouais. Mais vous croyez qu'il y a quelque chose, parce qu'on pourrait dire la même chose de gens qui lisent, l'absorption dans un livre, l'immersion dans un livre. Je ne sais pas, dans mon souvenir, le jeune Balzac, par exemple, inquiétait ses parents au moment de l'adolescence parce qu'il était triste, mélancolique, il passait son temps à lire. Ce que je trouve assez drôle, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on reproche ça aux jeux vidéo. Bon, à l'époque, c'était le roman qui faisait ça. Mais vous croyez qu'il y a une absorption particulière, une immersion particulière qui se fait avec les mathématiques ?
Mais il y a un corps à corps. Il y a une immersion en lecture, c'est vrai. On peut oublier le temps, c'est vrai. Bon, mais par empathie, Tandis que là, c'est un corps à corps avec une matière. Vous cherchez, vous essayez de trouver, ça marche, ça ne marche pas, vous essayez autre chose, vous vous demandez quels sont les théorèmes qui peuvent vous servir. Enfin,
et vous croyez que ça, ça a fait écho à quoi dans votre caractère ? À quoi ça a marché de votre caractère pour que ça vous passionne autant en quatrième ?
Bah ça, les victoires.
Ah, les victoires. Bah oui, mais tout le monde n'a pas envie de remporter des victoires dans sa vie.
Et ben c'est la même chose. C'est chercher, c'est trouver, c'est se continuer à se poser des questions et de se dire et si c'était pas comme ça, comment ça serait, etc., etc. Voilà.
Et ça en quatrième, donc il y a eu cette espèce de plaisir, enfin en tout cas qui s'est. Et après ça s'est formulé comment ? Enfin comment ça a évolué ?
Avec de plus en plus de savoir, de plus en plus de matière, donc de plus en plus d'éléments pour pouvoir justement trouver une cohérence. C'est un domaine quand même où la cohérence est essentielle, où la contradiction n'est pas admise. Ce n'est pas à ce moment-là que ma relation au langage, si vous voulez, à la langue mathématique s'est instaurée. Au contraire, j'étais bonne élève, donc ça marchait. Mmh. Vous avez des quantités de bons élèves qui ne se posent pas la moindre question et pour qui ça marche comme ça. Alors, j'ai l'habitude de dire en tant que pédagogue qu'il ne faut pas me demander, on me pose très souvent la question, mais ces élèves qui sont formidables, qui sont excellents, de quoi il s'agit ? Je serais bien incapable de le dire. En revanche, c'est quand ça ne marche pas que ça devient, si j'ose dire, mon affaire depuis Échec et Maths, qui a 40 ans maintenant. Sont les analyses des échecs qui m'ont montré ce à quoi moi j'avais échappé, ouais, c'est-à-dire une transparence supposée du langage, mais qui ne l'est pas du tout. Pas du tout. Quand j'étais petite, il y avait une petite comptine que j'adorais, on adorait ça avec mes petites amies. C'était, je crois, un homme assis debout sur un siège qui n'était pas sous lui, pleurait en riant la mort de son fils qui n'était pas né. Ça nous amusait follement. Bon.
Alors là, je ne vois pas comment vous allez faire le lien avec les mathématiques.
Eh bien, vous allez voir. J'ai retrouvé dans Platon, dans la République de Platon, une comptine de ce genre. Un homme qui frappe sans le frapper, ça veut dire sans le toucher, un oiseau qui n'est pas un oiseau, avec une pierre qui n'est pas une pierre. Bon, l'oiseau qui n'est pas un oiseau, c'est une chauve-souris. La pierre qui n'est pas une pierre, c'est une pierre ponce, etc. Eh bien, on a ça en mathématiques. Je peux vous faire un texte exactement du même genre qui montrera pourquoi des élèves peuvent ne pas comprendre. Prends prends le premier nombre de la liste, qui n'est pas premier, pour mesure du côté du triangle ABC, mais qui n'est pas à côté, qui n'est pas de côté, qui est entre deux sommets qui ne sont pas au sommet, le deuxième nombre qui, lui, est premier comme mesure de la hauteur.
Ce que vous voulez nous montrer, c'est quoi ? C'est que les mots qui soient utilisés dans le contexte mathématique ou hors du contexte mathématique n'ont pas le même sens. C'est que du coup, ça crée une confusion quand on mêle les deux langages.
Si je vous dis Pi est transcendant, je ne sais pas comment vous allez l'entendre.
Que Olivier Pi est un excellent directeur de Festival d'Avignon. C'est comme ça que je l'entends.
Ici. Voilà. Si ça se dit dans un amphi de mathématiques, ça voudra dire que Pi n'est pas un nombre algébrique. Voilà. Donc, vous voyez que le contexte a quelque importance.
On lui dira demain. J'avais noté cette phrase.
Bien évidemment que le contexte importe. Mais ce que je veux dire là, c'est que malgré le contexte, vous avez des mots comme hauteur, sommet, base, etc., qui sont des mots parfaitement ambigus. Le mot fonction, être fonction de quelque chose, n'est pas la même chose qu'être une fonction de quelque chose. Bon, c'est toute cette espèce de côté ambigu du langage qui fait que les élèves, très souvent, ne comprennent pas, et non seulement ils ne comprennent pas, mais ils comprennent autre chose. C'est ce que j'essaye de démontrer, ce ne sont pas des malentendus, ce sont des autres entendus. Et ce sont tous ces autres entendus que j'ai essayé d'analyser au fur et à mesure que j'avais des élèves qui étaient en perdition, qui ne comprenaient pas, etc.
On va revenir sur les élèves, mais qu'est-ce qui est le plus dur à apprendre en mathématiques, selon vous, c'est la baroque. Je parle pas de quand on fait des mathématiques très très compliquées par la suite, hein. Mais conceptuellement, qu'est-ce qui est la chose la plus complexe à entendre?
Écoutez, ce qui est extrêmement caractéristique du texte mathématique, puisque c'est ça qui nous importe, c'est que il peut se contracter complètement au fil des âges. Et ce sont les progrès extraordinaires qu'il aura fait. Vous avez une phrase. La phrase va donner un mot. Le mot va donner une lettre. Et cette lettre sera le condensé, donc, de cette phrase. Je prends un exemple. Je l'ai pris comme titre de mon livre que racontait un mathématicien, Laurent Schwartz, qui adorait raconter, moi je l'ai entendu la raconter au moins deux fois, c'est un mathématicien pédagogue, c'est rare, qui adore la pédagogie. Il était invité dans une classe de première et il a posé une équation du second degré. Le professeur, regardant le comportement de sa classe, très content de voir que tout le monde fait ce qu'il faut faire comme il faut le faire. Donc, tout le monde trouve delta. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de delta. Mais delta.
Assez vague.
On va en dire un mot. Mais donc, delta, tout le monde trouve un nombre delta égal à 7. Très bien. Et puis, quelle n'est pas la surprise de Laurent Schwartz de voir que la moitié de la classe se met en devoir de discuter, c'est-à-dire de se demander, puisque le delta est égal à 7, premier cas, si 7 est plus petit que 0, l'équation a, tel sort. Si 7 égale 0, ça vous dit quelque chose?
Non, mais je trouve ça hyper bizarre comme discussion, mais bon.
Mais 7 égale 0.
Ben non.
Comment peut-on se demander si 7 peut être ou ne pas être égal à 0?
Oui, c'est ça. Comment peut-on se demander ça, Stella?
Alors, je n'ai pas eu besoin de dire à quel moment il fallait rire, puisqu'on rit.
Mais on rit de moi et ça commence à m'énerver. Je vais passer de la musique bientôt, c'est la baroque.
Pas le moins du monde. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que ce delta, c'est le raccourci d'une formule. B2-4AC. Cette formule est elle-même le raccourci d'une prescription pour dire comment on résout une équation du second degré. Toute la question, c'est que ce texte, qui a du sens pour résoudre l'équation, tu fais ceci, tu fais cela, etc., eh bien, devenu une lettre, a perdu sa chair.
D'accord.
Et donc, delta, c'est devenu, si c'est plus petit que 0, si c'est égal à 0, ou si c'est plus grand que 0.
D'accord.
C'est ça que je vais essayer de dire.
Ouais, je comprends.
Donc, vous me demandiez ce qui était difficile, eh bien, c'est ça qui est difficile.
Non,
c'est...
moi, je trouve ça assez... un peu facile.
Ah bon?
Bon, alors chaque jour, c'est la baroque, on fouille dans les bases de données. Alors aujourd'hui, Véronique Lamindour est allée chercher dans la base de données de Radio France et elle a tapé mathématiques, c'est la documentation numérique de Radio France, de musique, et voilà ce qui est sorti.
Thank you.
Stella Baruch, vous avez reconnu?
Oh.
Oui.
L'enfant et les sortilèges, grande voilà. Merveille.
Oui. Grande merveille, oui. Musique de Ravel, texte
de Colette.
De Colette. Oui. La musique, vous, quand vous êtes venu à Paris, c'était pas pour faire de la musique, non?
Comment vous savez ça?
C'est vrai, comment je sais ça? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le travail, Stella Baruch, vous voyez? Vous insistez à se renseigner un tout petit peu sur les gens qu'on reçoit.
Bon, oui. C'est, j'étais partagée entre musique ou mathématiques, justement.
Qu'est-ce que vous jouiez comme
instrument? Non, c'était comme du chant.
Ah, c'est du chant. Ah oui, d'accord. Mm-hmm. D'accord. Et bon, j'imagine que vous avez posé 250 fois la question, mais est-ce qu'il y a des rapports? Est-ce que vous établissiez des rapports ou est-ce que vous avez établi depuis des rapports entre la musique et les mathématiques, ou c'est des choses qui ont toujours été très séparées pour vous?
Si j'ose dire, je ne sais pas comment vous l'entendez, les rapports entre musique et mathématiques. Mm-hmm. Il y a beaucoup de littérature,
oui,
pour dire la musique. Bon, si on retombe sur Pythagore et la gamme pythagoricienne, la succession des quintes, etc. Mais bon, ça c'est du savoir savant.
C'est ça. Je pensais plutôt si personnellement.
Personnellement, non. C'est alors si on veut, mais c'est un petit peu. Je peux essayer de tirer ça un peu par les cheveux, si je puis dire. C'est le pouvoir d'émotion des unes et des autres.
Le pouvoir d'émotion des unes et des autres.
Ah oui.
Ouais. C'est quoi le pouvoir d'émotion des mathématiques, de la musique, on voit assez bien. des mathématiques, c'est quoi le pouvoir d'émotion? Alors vous allez chercher dans votre herbier.
Dans mon herbier. Ah non, parce que là, il y a.
Alors là, c'est une couverture, donc une photocopie de couverture d'un ouvrage qui doit dater de 1633. Des éléments géométriques d'Euclide, de l'imprimerie, c'est quoi, Isaac Dedain et le vendeur en Lille du Palais à l'image Saint-Michel par là. Ok, l'émotion?
L'émotion, elle est là.
Ah.
Traduit en français par Denis Henrion, professeur et mathématique, imprimé, revu et corrigé du vivant de l'auteur, avec des commentaires beaucoup plus amples et faciles, etc. Et toujours pareil, imprimé par Denis Henrion, imprimé de son vivant.
Alors pourquoi ça vous émeut, ça, Stella Baruch?
Ça m'émeut parce qu'il y a des gens qui sont absolument passionnés par la matière des mathématiques, comme on peut être passionné par la musique, et qui peuvent y consacrer une vie. Et lui, Henrion, il a traduit les éléments d'Euclide, il en est mort, si j'ose dire. Et c'est sa veuve qui a continué son travail. Et alors, la chose, je suis très, très touchée par les processus de transmission, justement. Mmh. Et regardez ça.
Ma mère me l'a donné. Ah oui, c'est beau, d'accord.
Voilà, ça me donne la chair de poule.
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire, ça passe de génération en génération, à savoir. Alors, il y a une beauté mathématique intrinsèque.
Voilà, alors c'est ça aussi que je me posais comme question. La beauté mathématique intrinsèque. Alors, bon, on connaît tous l'idée de la solution élégante. Hein.
Oui.
D'abord, c'est une solution élégante. Qu'est-ce que c'est?
Toujours, pour rester dans ce dont je dispose, là. On a l'habitude de dire les nombres premiers. Euclide a démontré qu'il y en a une infinité. Il n'a pas démontré qu'il y en avait une infinité. Les Grecs avaient très peur de l'infini à cause de tous les paradoxes que ça entraînait. Il a fait une superbe démonstration avec trois nombres premiers. Et regardez comment c'est dit. Quelques multitudes de nombres premiers qu'on propose, il s'en trouvera encore d'autres.
Ah oui, effectivement, c'est très beau. Mais ça, c'est très beau comme de la poésie.
Exactement. Et vous avez une économie de moyens qui est très spécifique des mathématiques, justement. C'est la démonstration dont vous disiez qu'elle était élégante, c'est celle qui est la plus économique. C'est celle qui est le plus ramassée, le plus concise. Proclus, dont je parlais tout à l'heure, disait que c'était le fait de Clyde, justement.
Et ça passe par la langue. Au final, c'est une suite de mots.
Absolument. Mm. Là, c'est purement, quasiment littéraire.
Mm. Et vous êtes encore ému par, je sais pas, par. Est-ce que par exemple, ça vous arrive de lire justement des démonstrations, de découvrir des démonstrations et d'être à nouveau, de connaître une émotion à la lecture de cette démonstration, du tourpris, du génie d'un. Je sais pas, d'un retournement, d'une rapidité, justement.
Oui, je n'ai pas de souvenir très récent de ce genre d'émotion parce que je me suis beaucoup occupée des petits récemment. Mais oui, bien sûr. Je veux dire, alors, l'idée, c'est justement quand on retourne à des textes authentiques, c'est-à-dire à des découvreurs. Par exemple, à Descartes, par exemple, à son invention de l'écriture des puissances. C'est fabuleux. Voilà. Comment il a inventé quelque chose qui a permis un essor extraordinaire dans la résolution des équations polynômes, etc. Il a inventé les petits 2, les petits 3, les petits 4 qu'on met en haut. C'est Descartes. Ah, voilà. Ça a été préparé un petit peu avant, mais c'est lui qui a inventé ça. Et avant lui, on disait carré, on disait cube, en toutes lettres, en mots, et on disait carré-carré pour la puissance 4, carré-cube pour la 5, cube au cube pour la puissance 6, ce qui fait que avant lui, les textes sont absolument incompréhensibles. Et de voir la naissance de cette chose-là, oui, ça procure une émotion. Ouais.
Et c'est une réduction, encore une fois.
Et comment ? Et comment ? Et quelle économie ? Et cette réduction et intelligibilité qui devient totalement dynamique.
Et est-ce que vous êtes sensible ? Je repose la question un tout petit peu différemment de tout à l'heure sur la question des différents langages, c'est-à-dire que des parties des mathématiques qui sont, vous disiez, il y a des fondamentaux et puis il y a des adaptations, disons, aux différentes parties des mathématiques. Est-ce que vous êtes ému par toutes ces mathématiques ? Est-ce que, par exemple, la statistique, enfin, ému ou ému ou intéressé au point d'être ému ? Est-ce que la statistique vous intéresse autant que l'analyse, que la géométrie ? Alors, justement, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous intéresse plus ? Et pourquoi l'une des parties plus que les autres, c'était la Baroque ?
Je ne sais pas. Peut-être que ce sont celles qui mettent justement la langue le plus en jeu. Les statistiques, j'ai honte de le dire, j'ai essayé de m'y intéresser, mais ça ne me parle pas de la même façon que justement l'analyse ou la géométrie ou l'arithmétique. Pourquoi ? Peut-être que ça arrive un petit peu tard dans ma vie, voilà.
Et vous aimez les figures ?
Beaucoup.
Vous dessinez des figures. Est-ce que quand, par exemple, vous téléphonez à des gens, enfin, c'était une activité qu'on faisait au XXe siècle, vous avez téléphoné à des gens, et est-ce que vous dessinez...
Oui.
Et vous dessinez quoi ? Des figures géométriques ?
Des étoiles.
Ah, des étoiles. C'est bizarre, ça.
Pourquoi ?
Non, je ne sais pas, comme ça.
Je m'appelle Stella.
Ah oui, c'est vrai. Oh là là, parce que vous êtes freudienne, Stella Baroque. Chaque jour, Véronique Lamandour, toujours là, qui réalise cette émission, construit un petit montage sonore qui lui évoque la personne qui est invitée aujourd'hui. Et aujourd'hui, voici Stella Baroque, ce que Véronique Lamandour a composé pour vous composer, remixer.
These are the days, my friends, and these are the days, my friends. To get some wood for the sailboat, well, I could get those orders. To get the railroad for these workers, to be a breeze, to be frank, to be very fresh and clean, it could be. Get those for the gasoline shortest, and all these are the days, my friends, and these are the days.
C'est un plusieurs échos qu'a reconstruit Véronique Lamandour, puisque c'est un mix de l'opéra de Philip Glass, Einstein on the Beach, donc dans une version remixée, Einstein on the Beach, opéra qui avait été créé à Avignon, au Festival d'Avignon en 1976, dans une mise en scène de Robert Wilson. C'est une chose qui m'a toujours étonné dans l'enseignement des mathématiques, parce que c'est quelque chose qui vous préoccupe depuis très longtemps, Stella Baruch, qui m'a étonné parce que quand par la suite j'ai appris quelques rares choses sur les mathématiques d'une autre voie, j'ai été justement étonné en creux de ne pas l'avoir reçu jusque-là, c'est l'absence dans l'enseignement de l'histoire des mathématiques, des figures, des gens, justement vous disiez tout à l'heure Descartes, celui qui invente. Pourquoi on n'enseigne pas ça? Pourquoi on enseigne les mathématiques comme si c'était une parole révélée et qu'il n'y avait pas eu des constructions, des erreurs, des gens, voilà, des contextes, des histoires? Et c'est drôle parce que vous allez publier un livre sur le récit qui s'appelle, en octobre, hein, c'est ça, qui s'appelle « Nombres à compter, nombres à raconter ». Pourquoi, à votre avis, l'enseignement des mathématiques a mis de côté voilà, les histoires, les gens, l'humain, les erreurs?
Si elle l'a mis de côté, c'est il y a très longtemps. Quand je faisais mes études de mathématiques, je n'imaginais pas une seconde que les mathématiques avaient une histoire.
Ah oui, non, mais je dis pas récemment. Hein,
c'est... Ouais. Ouais. Oui, non, mais ouais. Je veux dire, c'est au contraire, on commence à parler, à parler d'histoire des mathématiques depuis une vingtaine d'années. La commission inter-IREM épistémologie fait un magnifique travail autour de ça, c'est-à-dire elle propose des brochures, et puis la question de l'histoire a été pas mal agitée. Doit-on l'introduire comme faisant partie des mathématiques, c'est-à-dire ajouter une contrainte aux élèves? Bon, pour ma part, je crois, j'ai l'habitude de dire, l'histoire, l'épistémologie arrive par la pédagogie, c'est-à-dire l'histoire d'un mot, l'histoire d'un terme, comment ça se disait avant, comment c'était avant, comment procédait-on avant, et quelles sont les étapes qu'a subi telle notion, tel concept, etc. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul dans une élucidation, justement, d'une nécessité, par exemple, l'écriture des puissances, qui pose de tels problèmes aux élèves, les calculs. Il me suffit de prendre un Descartes et de leur montrer qu'il écrivait d'abord A, A, B, 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 et que c'est devenu A2, B3, et quelle économie ça représentait pour que, ils se rendent compte que ça n'avait pas toujours été comme ça, et que c'est une merveilleuse économie.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la Baruch, mais est-ce que ça ne dit pas quelque chose de l'idée qu'on se fait des mathématiques, le fait que pendant très longtemps, on n'ait pas pensé à enseigner l'histoire, mais qu'on les ait enseignés, est-ce que ça ne dit pas quelque chose, oui, de l'idée qu'on se fait de cette discipline, comme si, encore une fois, j'utilise le terme de parole révélée, mais parce que ça fait penser à la même découverte qu'on fait le jour où on apprend que la Bible, c'est un texte construit, que les évangiles, il y a eu des évangiles apocryphes, qu'on a décidé de trier, voilà, bon, etc. Et là, tout à coup, on se dit, ah bah oui, il y a une construction historique d'un texte, bon, voilà. Et pour les mathématiques, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que ça dit des mathématiques, le fait qu'on se soit intéressé juste très, très récemment à faire rentrer l'histoire des mathématiques dans l'enseignement des mathématiques?
Ça dit que les mathématiques que l'on vous enseigne, c'est la Bible.
Ouais, c'est ça.
C'est tout. Voilà, normalement, c'est vous avez un théorème, vous l'apprenez d'ailleurs, il y a de moins en moins de théorèmes, malheureusement. Voilà, c'est un théorème, il est gravé dans un marbre qui se trouve quelque part, et vous avez à l'apprendre, à le restituer. Hein. Vous avez une définition, c'est ça qui est extraordinaire, par exemple. Même les mots, c'est très facile d'apprendre aux élèves que tel mot n'a pas toujours existé. Je vous parlais du fameux delta. Le mot discriminant n'est arrivé qu'en 1899, après que l'on se soit demandé s'il pouvait s'appeler réalisant ou imaginarisant. Eh ben non, il s'appelle discriminant.
Excusez-moi, j'ai oublié ce que c'est un discriminant.
Delta. Ok.
Ouais, bah, rigolez pas, parce que si je suis sûr que dans le public, si on faisait un test, je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous, ce que c'est que disent. Ah, vous pouvez bien rigoler, mais voilà. Hein.
Bon, mais donc.
Non, mais c'est vrai, quoi.
Je vous assure que je serai la dernière à rigoler, vous vous doutez bien.
Enfin, vous avez 3 minutes que vous rigolez, mais enfin bon.
Bon.
Ouais, donc on se pose la question de savoir comment on va nommer. oui, delta et qu'on hésite et que voilà.
Et ça, met du temps et ça suppose très souvent des résistances. Il y a une mathématicienne qui s'appelle Lucienne Félix, qui était l'élève de Henri Lebesgue, immense mathématicien, qui raconte que bon, alors. Vous qui me parlez de figure, Xavier Delaporte, vous imaginez un segment, c'est pas difficile. Un segment, il peut être coupé par des droites, un milliard de façons. Il peut y en avoir qui passe au milieu, de milliards de façons. Et puis, il n'y en a qu'une seule qui passe au milieu et qui est perpendiculaire. Bon, alors, on disait la droite perpendiculaire au segment en son milieu. Et puis, l'association des professeurs de mathématiques avec Lucienne Félix, eh bien, à penser qu'un seul mot pouvait désigner la chose.
Alors,
okay. Médiatrice.
Ah oui, c'est vrai.
Vous voyez, très bien. Eh bien, elle s'est fait reprendre vigoureusement, presque méchamment, par un parent d'élève qui lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce mot stupide et ridicule? Qu'est-ce qu'on en a à en faire? Il suffit de dire la perpendiculaire au milieu d'un segment. » Alors, vous voyez, aujourd'hui, on coupe tous les mots en deux et où, et où c'est la vitesse qui prime, dire la perpendiculaire au milieu d'un segment ou bien dire la médiatrice.
Bon, il était perturbé en son savoir, c'est pour ça.
Ils le sont souvent les parents. Exactement, exactement. Bon, les mathématiques gravées dans le marbre, il y a quand même eu le séisme des maths modernes avec toute une irruption de vocabulaire extraordinaire, terrorisante pour ceux qui ne le connaissaient pas, au point qu'un jour, on a pris un ministre à partie. Vous savez qu'on prend toujours les ministres de l'éducation à partie chaque fois qu'il y a des changements de programme. Et on l'a mis face à un élève en lui demandant « Allez, vous allez reconnaître maintenant une bijection, une surjection et une injection. Laquelle est laquelle ?»
Le nul.
Non. Alors là, dites-vous bien qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand monde qui sait ce que ça veut dire. Ça a été au contraire, justement, un choc terrible. Voilà. Alors, effectivement, moi j'ai vu des transformations du fait des programmes, des définitions d'un mot, d'un vecteur, mais définition, changement de concept. Et pourquoi le nouveau concept ne pourrait-il pas prendre sa place? Ben voilà, c'est très difficile.
On va pas, évidemment, on va pas en quelques minutes, il ne reste pas beaucoup de temps, revenir et à la fois analyser tous les problèmes que pose l'enseignement des mathématiques à l'école, mais juste quelques petites pistes. Est-ce que ça fait depuis le début des années 70 que vous œuvrez à l'idée qu'il faudrait changer l'enseignement des mathématiques aujourd'hui? Est-ce que vous vous estimez avoir été d'une certaine manière un peu entendu et quel est selon vous l'état aujourd'hui de l'enseignement des mathématiques en France et peut-être particulièrement au primaire pourrait-on dire mais même plus généralement, est-ce que vous avez été un peu entendu, est-ce que c'est terrible, c'est plus terrible que ça ne l'a jamais été, est-ce que c'est en progrès?
Je crois que l'enseignement des mathématiques est dans une situation très difficile en ce moment, tout le monde le dit, je ne suis plus une des rares à le dire ou à oser le dire. Situation très difficile à laquelle on est supposé remédier avec une énième refonte des programmes, en particulier en commençant à l'école primaire. À l'école primaire, il est bien évident que c'est le socle. Étant donné, si vous voulez, la verticalité justement des mathématiques, si à l'école, les enfants ne sont pas déjà en possession exactement des mêmes idées que celles qui seraient nécessaires en fac de maths, mais à leur niveau. Si vous voulez, une idée mathématique, un nombre, un nombre. Il n'y a aucune raison que ça change entre, si je puis dire, le CP et la terminale, ou au-delà. C'est la même idée. Bon, on ne va pas le dire de la même façon à des enfants de 6 ans et de 18, mais c'est la même idée. Or, il se trouve que il y a une cassure qui est l'héritière encore de l'ancienne école primaire, une cassure entre école et collège. Ce qui fait qu'ils ont énormément de mal. Alors, vous voyez sur Internet une foule de propositions, de liaisons, CM2 collège, CM2 collège. Mais pourquoi liaison? ça devrait être dans une continuité. C'est ce que je propose dans la plupart de mes livres, ce que je propose dans les dictionnaires, c'est que, par exemple, au moins, la langue, parce qu'on y revient, que la langue soit complètement cohérente depuis petit.
Je ne comprends pas pourquoi des choses... Parce que ça ne paraît pas extrêmement compliqué. À quoi ça se heurte, des changements comme ça? À quoi ça se heurte? C'est juste au poids, à l'inertie des institutions scolaires, ou il y a autre chose quand même derrière?
C'est une très bonne question. Pourquoi cette inertie? Pourquoi cette inertie? Parce que c'est entretenu, si vous voulez, à l'école primaire, c'est entretenu par le fait que vous avez beaucoup d'enseignants qui vous disent « Moi, je comprends rien aux mathématiques, donc je fais l'addition, la multiplication, la soustraction. » Mais l'addition, la multiplication, la soustraction ne sont pas ce qu'on croit. Et justement, à l'école primaire, lire... 3 plus 4 égale 7, le signe égal, il déclenche un calcul. Au collège, il ne déclenche pas un calcul. A plus B, c'est A plus B. Je veux dire, si je fais la somme de deux nombres qui sont l'un A et l'autre B, c'est A plus B. Et les élèves, ils ont envie que ça fasse quelque chose. Parce que, justement, je viens de terminer tout un travail avec des enseignants dans une école primaire où, depuis le CP, on utilise une langue qui permet la pensée, parce qu'une pensée ne peut pas se passer de langue. Donc, voilà.
Et je me disais, Stella Baruch, moi, dans la vraie vie, je m'intéresse aux questions numériques beaucoup, et je me disais, est-ce que vous pensez que les ordinateurs, l'usage des ordinateurs change quelque chose aux mathématiques? Alors pas, je pensais pas en termes de recherche, mais même le rapport qu'on entretenait au nombre. Je me disais ça, je veux dire, le fond de ma pensée, c'est que je pense que, par exemple, nous manipulons aujourd'hui des énormes chiffres, des énormes nombres, que personne ne manipulait auparavant, à part les physiciens ou les gens qui faisaient de la finance. C'est qu'on passe notre temps à avoir des gigas, des mégas, des centaines, des milliers de machins qui circulent, etc. Et qu'on manipule des énormes chiffres qu'on manipulait pas avant. Très peu de gens manipulaient ces énormes chiffres. Je me dis, voilà, est-ce que ça change quelque chose, par exemple, la perception qu'on a des nombres, des quantités, que tout à coup, voilà, tout le monde manipule des 100 000 trucs, des milliards de milliards de données, etc., dans son ordinateur. Non, je me disais ça, est-ce que la représentation qu'on a des nombres, et donc du coup des quantités, etc., évolue en fonction, par exemple, de l'arrivée d'un nouvel outil? C'est la question que je me posais.
C'est très possible, je n'ai pas le recul suffisant pour vous le dire, mais pour ce qui est de l'accession proposée aux enfants à la numération, ça reste inopérant. On ne peut pas se passer, de l'intermédiaire humain. On ne peut pas se passer de la voix.
Parce que? Pourquoi?
Pour la numération, par exemple. Pour la numération, pour l'écriture des nombres. Si je dis, par exemple, 2 plus 3 multiplié par 5, ça fait combien 2 plus 3 multiplié par 5? 2 plus 3 multiplié par 5. Alors,
On a besoin de répéter 25.
Vous posez la question. Je suis en train d'essayer de le dire d'une manière neutre. 2 plus 3 multiplié par 5, mais c'est totalement ambigu. Est-ce que c'est 2 plus 3 multiplié par 5, ou est-ce que c'est 2 plus 3 multiplié par 5? Donc, on a besoin d'un intermédiaire humain, on a besoin de la voix, on a besoin du sens. Et c'est pour ça que, Internet, ça peut être formidable pour s'entraîner à faire des... Mais pas pour initier à quelque chose où vous avez besoin que ce soit incarné.
Je vais vous demander de vous livrer un petit questionnaire, mais vous m'avez dit, donnez-moi 20 secondes avant la fin. Je vous donne 20 secondes.
Mais c'est parce que j'avais un cadeau pour vous.
Ah bon? Super. C'est quoi?
Puisque texte il y a, nous n'en avons pas assez parlé de la numération, mais Georges Perec était un très cher ami, et que, comme il savait que je m'intéressais aux enfants, il a fait pour eux une comptine, texte totalement inédit. Voilà.
Ah, c'est magnifique. Alors, ça. Que vous voulez que je lise?
Essayez.
Alors, comptine. Inde et 3 quartz, 5 si, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je crains, je sais, je dis, c'est, t'es, 10, oui, et 10, 9 et 20.
Bravo!
Oui, c'est très beau, c'est la baroque. Merci. Ben, je vais vous demander de vous livrer un petit questionnaire pour la fin de cette émission. Alors, Stella Baroque, un texte que vous relisez sans cesse. Oui, vous remettrez peut-être plus tard votre
compte. Oui.
Voilà, je vais vous la tenir pour pas qu'elle s'envole. Oui, je la tiens précieusement.
De l'institution des enfants de Montaigne.
Ah oui, alors ça, très bon choix. Un texte que vous connaissez par cœur, si vous en connaissez un.
Oh, j'en connais beaucoup par cœur. Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber, un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets.
Un problème de mathématiques qui vous fascine particulièrement ?
Un problème de mathématiques, le fameux problème qui est parti des triplés pythagoriciens et qui a puissance n plus b puissance n égale c puissance n n'a pas de solution pour n supérieur à 2.
Un signe mathématique que vous aimez plus que les autres. Par signe mathématique, j'entends pi, l'infini, je ne sais pas, des signes qui...
Égal.
Ah, vous aimez...
À cause de tout ce qu'il peut proposer de vrai, de faux, de réjouissant, de rigolo, de...
Ah ouais. Comment est rangée votre bibliothèque, Stella Baroque ?
Oh là là. D'abord j'en ai deux. Il y en a une dans ma chambre qui est pour les romans, les essais, etc. Et puis mon bureau qui est la bibliothèque mathématique. Et là, c'est infernal.
Ah ouais ? On peut vous accumuler comme dans le désordre.
Oui. J'ai beaucoup de mal à retrouver parce que c'est justement là aussi, dans la mesure même où je travaille sur un ouvrage, j'ai une logique de rangement de tout ça,
bien.
Et puis je passe à un autre ouvrage, la logique s'effondre et le rangement avec.
D'accord. Est-ce que vous écrivez encore à la main ?
Ah oui, j'aime beaucoup ça, mais pas mes livres.
Alors qu'est-ce que vous écrivez à la main ?
Des lettres.
Des lettres ? Toutes sortes de lettres ?
Des lettres, oui.
D'accord, vous ne voulez pas être plus précise. Bon. Un texte que vous avez détruit, et pour quelle raison ? Qu'on vous a envoyé, ou que vous avez reçu, que vous avez écrit vous-même ?
Un texte que j'ai détruit. Je ne détruis pratiquement rien dans la mesure où ça me sert de mémoire.
Vous avez des caisses de...
Comment ?
Vous avez des caisses de textes, de
lettres. Et voilà, ça m'empêche de mettre les pieds l'un devant l'autre dans mon bureau. Voilà.
Un texte dont vous remettez sans cesse la lecture à plus tard.
Hélas, La recherche du temps perdu.
Ah, tout le monde répond ça.
Bah oui.
C'est là où on va quand même découvrir que personne n'a lu Proust sur ça, mais tellement réjouissant. Un texte, ça revient peut-être un peu au même, cela dit, mais un texte que vous avez honte de ne pas avoir lu.
Le même,
La recherche du temps perdu. Un texte dont vous parlez souvent, alors que vous ne l'avez pas vraiment lu.
Ça, je vous dirai pas.
Ah bah si, s'il vous plaît. Ah bah si. Allez, attendez. Frédéric Boyer, traducteur de Saint-Augustin, nous a avoué qu'il n'avait pas lu un des grands textes de Saint-Augustin. Voilà, pas jusqu'au bout. Alors, la cité.
Mais vous voulez dire un texte dont je parle sans l'avoir lu ?
Voilà, c'est ça. Ce qu'on fait tous, c'était la baroque. Peut-être pas vous, mais...
Peut-être pas moi. Voilà.
Oh, c'est trop facile. Merci beaucoup. Comme chaque jour, nous ouvrons, pour terminer, un espace à la lutte que mènent ici à Avignon et partout en France les intermittents, précaires, chômeurs, intérimaires. Chaque jour un texte, un titre. Aujourd'hui, la puissance du nous.
J'ai appris à parler cet été, à 35 ans. J'ai appris que je parlais mieux quand je disais nous, parce que j'étais plus nombreux. J'ai appris que cela n'a pas fait plaisir à tous que l'on prenne ainsi la parole. J'ai appris qu'un artiste avait le droit de parler de papillons et de fleurs bleues, parce qu'un artiste, même intermittent, c'est quand même un poète. Mais j'ai aussi appris qu'un artiste ne devait pas parler de chômage, d'argent ou d'unédic, parce que ce sont des mots trop vulgaires pour un poète. J'ai appris à aimer cette vulgarité. J'ai appris que j'avais le droit de parler de ce qui me regarde, et que ça, c'est ce qu'il y a de plus intolérable pour ceux qui nous gouvernent. J'ai aussi appris que j'avais le droit de parler de ce qui ne me regarde pas. Parce que bientôt, tôt ou tard, inéluctablement, ça me regardera.
En première S, j'ai appris à tracer une courbe de fonction du second degré pour faire plaisir à mon père. Moi, je n'en voyais pas l'intérêt. Par hasard, cet été seulement, j'ai appris en les traçant que des courbes bien pensées pouvaient être belles et socialement équitables. J'ai appris à un logiciel à dessiner les contours de ce qui n'est pas encore. J'ai pris ma revanche sur la trigo, les dérivés, et j'ai conquis d'insoupçonnables royaumes adjacents. Ce que j'ai appris, j'ai essayé de l'apprendre aux autres.
J'ai appris ce qu'était un régime paritaire d'assurance chômage. J'ai appris que cela consiste à décider du sort d'un grand nombre de gens sans leur demander leur avis. J'ai appris à me mettre en colère et que seul, cela ne sert pas à grand-chose. J'ai appris que je pouvais être nombreuse. J'ai appris que les dispositifs sociaux étaient faits pour qu'on ne puisse pas les comprendre. J'ai appris à les comprendre.
J'ai appris que je n'avais pas fait 68 et qu'on me le reprochait. J'ai appris que dire la vérité était une insulte. J'ai appris que l'intermittence était ma liberté et que celle-ci était bafouée.
J'ai appris qu'un accord reconnu par tous comme destructeur, inique et inefficace pouvait être considéré comme une grande avancée sociale. J'ai appris qu'avoir des idées avant les autres était un sport de combat.
J'ai appris la puissance du « nous ». J'ai appris que plus jamais je n'accepterai que quelqu'un décide de notre sort sans nous consulter. J'ai appris qu'il n'y a rien de plus beau qu'un mouvement collectif autonome. J'ai appris à devenir nuisible. J'ai appris que nos actions ne connaîtront pas de pause.
Texte collectif de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France, été 2003.
En cette journée de grève nationale et de dernière table de concertation de l'été, la rue continue de se faire entendre et cela résonne aujourd'hui 24 juillet jusqu'à Chalon.
On vous embrasse les copains.
Merci, merci beaucoup Stella Barouk, merci d'être venue nous rendre visite jusqu'ici sous les platanes de la cour de l'Université d'Avignon. Vous avez donc un livre à paraître en octobre, ça veut dire le 40e peut-être, c'est extrêmement nombreux. Les nombres à compter et à raconter. Demain, votre place pour la dernière de ces trois semaines, nous recevrons donc le directeur du festival d'Avignon, Olivier Py. Vous avez dit quelque chose de très beau sur Py, vous avez dit quoi, vous en souvenez?
Oui, oui. Py est transcendant.
Ah oui, Py est transcendant. Voilà, on verra. C'était Des idées sous les platanes, une émission préparée par Geneviève Méric à la technique Georges Thau, Jean-François Georges, Tanguy Le Corneau, Florent Layani, réalisation Véronique Lamindour. Le chargé de production était Jean-Christophe Perrin, comme tous les jours. Dans quelques instants, vous retrouverez sur France Culture On ne parle pas la bouche pleine, Alain Crugère. Bon après-midi et à demain.